Bon, c'est toujours intéressant ce moment-ci de l'année de parler des prix des billets pour les matchs du Canadien. Et là, ça commence lundi, le premier match.
Oui, premier match hors concours contre les Devils du New Jersey. Et il faut savoir que ça va être ce qu'on appelle un split squad là, chez les Devils. Les Devils jouent deux matchs lundi soir, dont un à Jersey et l'autre à Montréal. Alors, ils vont diviser leurs effectifs en deux. Je peux déjà vous dire que Taylor Hall ne vient pas jouer lundi à Montréal. Tu peux penser que leurs meilleurs joueurs vont jouer à Jersey.
Piquet va jouer où, lui?
Moi, je pense que Piquet va jouer à Jersey. Là.
Okay.
Si tu dis que Piquet joue, tu peux aller chercher un 5-6 000 de plus. Ajoute à ça Jack Hughes, le premier choix du repêchage. Alors ici, là, tu vas sûrement avoir des gars de la Ligue nationale parce que tu n'as pas le choix d'en faire jouer, mais peut-être le gars du troisième et du quatrième trio. Là.
On va parler avec Ray Lalonde qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, messieurs.
C'est quoi la politique des prix pour le Canadien là, durant les matchs pré-saison puis durant la saison?
C'est le même prix.
C'est le même prix.
Alors, on considère ça tout simplement comme quatre matchs supplémentaires où on maximise les revenus possibles. Et donc, on le voit comme étant une offre qu'on fait aux détenteurs de billets de saison de 45 matchs au lieu de 41.
As-tu le choix comme détenteur?
Non.
Je suis obligé de les prendre.
T'es obligé de les prendre, puis c'est comme, t'as pas le choix. Mais pendant ce temps-là, les Canadiens ont 4-5 000 billets à vendre au grand public, et ceux-là sont particulièrement difficiles à vendre, un match comme lundi, parce que les prix sont très chers.
Bon, là, tu vas nous expliquer, il y a différentes catégories de prix. Exemple, lundi, match préparatoire.
Ouais. Bon, alors, il y avait dans le passé, Paul Palin, les matchs du week-end, les matchs optimum contre des grands adversaires. Ouais. Cette année, les Canadiens ont innové, c'est intéressant, mais encore une fois, le marché le demande. Quatre types de billets, diamant, or, argent et régulier, ou bronze. Diamant, c'est deux fois dans l'année seulement contre Toronto, où les prix sont littéralement presque 100% plus chers que le match régulier.
Ça, c'est deux samedis soirs, d'abord?
C'est deux fois contre les Maple Leafs seulement. Ensuite, t'as des matchs or, t'as des matchs argent, dépendant de l'adversaire puis du soir, puis t'as des matchs réguliers, puis les matchs pré-saison sont dans les réguliers. Alors, je prends l'exemple des billets qui m'appartiennent. Un match régulier va te coûter à peu près 223 $ pour un seul billet. Tu vas dans un match argent, 269. Un match or, 359. Puis un match diamant, 433. Alors, tu vois un peu la variance dans le billet.
Mais pourquoi c'est Toronto qui mérite le titre de billet diamant?
Parce que Toronto a une équipe particulièrement intéressante à regarder.
Il y a la rivalité entre les deux villes.
La rivalité. Et tu sais, ce que les Canadiens ont fait, c'est qu'ils se basent sur le marché secondaire. Ils se disent, si le marché secondaire vend des billets à Toronto, aux corporations, aux entreprises, aux gens d'affaires, à des prix ridicules, pourquoi nous, on n'embarquerait pas dans le jeu? C'est toujours basé sur l'offre et la demande. Et actuellement, il y a encore une bonne demande pour les Canadiens. Ils ont renouvelé à presque 95% l'été dernier, sans faire les séries.
Moi, il y a une chose qui m'a étonné. D'abord, il y a une nette différence dépendamment du jour de la semaine où le match est présenté. Et le choix des équipes qu'on a placées dans une catégorie supérieure, les Hurricanes de la Caroline et les Islanders de New York, se retrouvent parmi les catégories de billets les plus chers cette année.
Ouais, ben Caroline et les Islanders, en fin de saison, sont dans la catégorie or. C'est pas à cause du club, mais plutôt à cause du moment dans la saison, au cas où les Canadiens seraient dans la course aux séries.
Et à l'inverse, le Lightning de Tampa Bay tombe dans aucune catégorie, lui.
Ouais, ben le 15 octobre, Tampa Bay, avec plein de joueurs francophones, avec des dirigeants francophones, puis la meilleure équipe de la Ligue l'année dernière en saison, 15 octobre, match régulier.
Et là, parallèlement à ça, c'est qu'on entend de plus en plus parler, les circuits professionnels, de diminuer le nombre de matchs préparatoires. Parce que, pour les raisons que tu viens de nous donner, là, d'abord, c'est pas toujours des vedettes qui sont là, puis les prix des billets. Le football veut réduire de 4 à 2. Le basket a réduit également.
Ouais.
Donc, ça laisse entendre que c'est pas vraiment utile, ça là.
C'est surtout utile pour les clubs, pas pour les partisans. C'est sûr qu'il y a des fanatiques qui veulent voir jouer pour la première fois Kotkaniemi cette saison ou l'arrivée de Poehling et de Josh Brooke et ainsi de suite, bien sûr. Mais là, c'est de l'argent que tu sors de ta poche pour un match qui ne veut rien dire. La NBA a pris ça en considération l'an dernier, a réduit d'à peu près 8 à 4 l'ensemble des matchs pour une seule équipe, en se disant, les joueurs en veulent pas, puis les partisans sont un peu dégoûtés du fait qu'on les force à acheter ces billets-là. La NFL pense de réduire de 4 à 2, mais rajouter deux matchs saison régulière qui valent beaucoup plus d'argent en bout de ligne pour la télé et pour les commanditaires. Alors, chaque ligue le regarde différemment.
Donc, la politique d'obliger le détenteur de billets de saison à acheter les matchs hors concours, c'est en vigueur dans tous les circuits professionnels, ça.
Oui,
là.
Oui.
Est-ce que tous les clubs de la Ligue nationale de hockey font ça?
Oui, à ma connaissance, oui, parce que t'as pas vraiment le choix, sinon tu les vendrais jamais tes billets.
Une question comme ça, est-ce que, là, tu dis que, bon, pratiquement tous les détenteurs de billets de saison renouvelés. Oui. Est-ce que le Canadien a plus de misère à vendre ses billets qu'avant?
Oui. Surtout en saison régulière, surtout ces matchs réguliers, billets publics. Rappelle-toi qu'un billet public, c'est-à-dire c'est ce qui est vendable au guichet ou sur le en ligne. Et sur 21 000 quelques billets, il y a à peu près 15 000 quelques billets de saison, ça demeure quand même 5-6 000 à vendre.
Par soir.
Par soir.
De match.
Là-dedans, il y a des loges, ça c'est vrai. Fait que mais mettons qu'on l'arrondit à 3 000, il faut qu'il travaille dur ces temps-ci, pardon, pour vendre ces billets-là, comparé aux années passées.
Puis est-ce qu'il y a des rabais?
Il y a des rabais occasionnels, puis des forfaits occasionnels, puis quand t'en achètes 4-5 ensemble, tu peux trouver un pourcentage moins cher, mais c'est un volume quand même imposant. C'est pour ça que les performances sont vraiment pertinentes.
Et parlant de volume, si tu prends tous les matchs de la saison, un billet de saison, ça, t'as une certaine réduction sur le prix des billets. Là,
tout à fait, pour le prix des billets de saison.
Oui.
Si t'es prêt à aller jusqu'au bout, t'engager long terme, c'est à peu près 20 % de moins que tu bénéficies parce que tu nous assures un client qui va acheter les 45 matchs. C'est important, ça, pour les clubs, parce que c'est la certitude des revenus dans un marché très volatile où les gens peuvent se dire, aujourd'hui, j'achète en ligne quand je veux.
Là, il faut parler d'un autre aspect que tu soulevais ce matin qui concerne cette fois le baseball.
Le baseball, oui. Écoute, le baseball, je ne sais pas si on peut parler d'une crise, là, mais bon, cette semaine, on a battu le record pour le plus grand nombre de circuits cette saison. Il reste encore deux, trois semaines à la saison. Et on se rend compte, c'est qu'il y a de moins en moins d'action pendant un match. 36 % des présences au bâton, là, ce sont des statistiques qui relèvent de cet été. Ça se termine par un résultat qui entraîne aucune action sur le terrain, soit un circuit, un but sur balle ou un retrait sur des prises. Il y a eu d'autres crises dans le passé au baseball, on s'en est toujours sorti. Mais là, ce qui ajoute au problème, c'est que l'amateur moyen est de plus en plus vieux au baseball. Et là, les stades, regardez les faits saillants, là. Il y a des stades, là. Il n'y a pas grand monde, là. Les assistants sont en baisse à beaucoup d'endroits, là.
T'as raison. C'est un vrai problème. Ça fait 3-4 ans de suite que le baseball subit des baisses d'assistance. Les Blue Jays sont en baisse de 30 %. Il y a quelques équipes, comme les Phillies qui ont acquis Bryce Harper, sont en hausse. Mais même les Yankees de New York, ils vendent à peu près 2000 billets de moins cette année que l'an passé. Et ils ont un club de série mondiale. Le problème du baseball, vous l'avez dit ce matin, c'est un sport qui est lent. Il y a beaucoup de circuits, beaucoup de retraits au bâton, pas beaucoup d'action. Et honnêtement, ça connecte moins avec la génération d'aujourd'hui. Vis-à-vis ce que tu as dit ce matin, le basketball.
OK, mais là, nous autres, on est en train de rêver un club pour Montréal de baseball. Là.
Ouais. Alors donc, c'est tout un dilemme, Paul, parce qu'honnêtement, même si nous, on aime le baseball comme culture, puis on a grandi avec, la jeune génération, aucune connexion possible et émotive avec le baseball. Il faut voir que ça se bâtisse. Ça prend du temps à bâtir une culture chez les jeunes quand t'as du e-sport qui envahit le peuple et le basketball qui est si dynamique avec des stars qui montrent, c'est vraiment le visage des joueurs. Très différent pour le baseball.
Parce qu'on dit que le baseball a traversé des crises, puis on donne des exemples à l'époque de Babe Ruth, Mickey Mantle, mais le choix n'était pas ce qu'il est aujourd'hui pour les jeunes. Là. Tu peux faire d'autres choses vite en te revirant de bord.
Honnêtement, ça va être un gros défi pour ce groupe-là de propriétaires baseball. Comparé à ce que ça aurait été s'ils avaient été vers le basketball en faisant le choix.
Je vais te poser une question. Là, le basket, c'était le fun au printemps. Les Raptors, Kawhi Leonard gagnent le championnat. Là, Kawhi est parti. On s'entend pour dire que les Raptors vont avoir une bonne équipe, mais aspireront pas aux grands honneurs encore cette année.
Ouais.
Est-ce que la ferveur va être encore là, là?
On a vécu un moment historique. Ça se reproduit pas souvent. Ça n'enlève pas que les Raptors sont sold out depuis 10 ans. Ça n'enlève pas que Asdati, l'an dernier, on pensait pas au titre non plus.
Ouais. Mais on savait qu'on avait un superstar.
On savait qu'on avait un gros club. Alors, ces choses-là arrivent dans le sport. Faut accepter ça. Le basketball est un sport drivé par des vedettes.
Bon, ben voilà pour notre économie 101 du hockey. Non, mais j'ai regardé ton tableau des prix pour des matchs hors concours. Là.
Et moi, ce qui me fascine, Lightning de Tampa Bay, là, c'est club ordinaire.
Classé ordinaire dans le calendrier.
La Caroline, les Islanders, ça, c'est dans les catégories or.
Ouais. Quand les auditeurs me disent, ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils ne baissent pas leur prix? Ils sont moins bons. Parce que ben, y a des gens qui sont prêts à en acheter. Il faut croire là, que c'est pas.
Puis s'ils veulent baisser les prix, il faudrait que les gens aillent pas.
Là, ils ont-tu appliqué la prime des bouts de rangée, là?
C'est-tu
fait?
Oui, c'est cette année. Ça. Non, t'as une bonne mémoire, Paul.
Je l'ai pas oublié, ça. Non, c'est marqué dans ma mémoire. Merci, Ray Lalonde. Il est 8h13. Le pont Mercier.